Bon, mais bon matin. Ça va. En tout cas, on va voir si ça marche. Si vous m'entendez pas, vous faites comme ça sort. Faites comme ça, puis je fais. OK, à part mes enfants à moi, là, fait que c'est bon. Ça, on comprend. Fait que c'est vraiment un privilège, en fait, pour moi d'être ici là, pour parler des fêtes des papas. C'est une des choses que je te dirais que Dieu m'a béni le plus avec dans ma vie. Puis si vous avez déjà passé du temps dans le groupe jeunesse, vous avez sûrement entendu parler au moins une fois ou deux du rôle des papas, le fils prodigue et le papa. Vous avez sûrement... Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. Fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler du fils prodigue, ni du père prodigue, ni aucunement des deux, aucunement de cette parabole. Je vous le mentionne juste pour que si jamais vous pensez que je vais l'insérer plus tard, je ne vais pas l'insérer plus tard. Oui, je suis très correct, c'est bon. En fait, puis c'est vraiment comme rôle de papa, je peux dire là, que j'ai été tellement, mais Marc l'a dit, puis même vous avez vu des photos, puis même vous voyez Mathieu qui est ici, c'est tellement bénissant de voir que notre fiston, mon fiston, est revenu à la maison après avoir été à Hawaï en formation, puis en Chine en mission. Puis juste de l'entendre, je peux dire que c'est assez le fun, assez bénissant d'être au restaurant avec ton fiston, puis les deux en larmes, puis le serveur se demande ce qui se passe. Fait que c'est non, on est correct. Fait que c'est assez bénissant de pouvoir cheminer avec lui. Puis Mathieu va partager un peu de son ministère, puis comment Dieu a vraiment opéré d'une façon spéciale dans sa vie dans les derniers mois. Maman et papa, on est tous les deux assez contents de le revoir dans la famille, mais on comprend que, en tout cas, c'est, il n'est pas là pour un autre 20 ans. Là. Non? 20 minutes, on espère. Mais certainement pas pour 20 ans. Mais. Donc, je veux vous parler du... Vu que c'est la fête des papas, on va parler des papas. Et on va parler de notre Père qui est aux cieux. Puis pour ceux qui, grammaticalement, ceux qui veulent... qui questionne un peu que c'est mon français, ma gestion, ma compréhension de la langue française. Ça, c'est bibliquement, c'est correct, c'est Louis II, c'est comme ça qu'on écrit notre Père qui est aux cieux. Parce que c'est tu es aux cieux. Là. Fait que c'est, grammaticalement, c'est correct. Vous regardez dans vos Bibles, c'est de même qu'on les dit. Mais en parlant des papas, que notre papa qui est au ciel, moi, j'aimerais bien parler des papas terrestres. Et l'impact des papas dans la vie, dans nos vies. Puis je vous préviens, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont moins bien. Puis je pars avec des choses qui sont moins bien, l'impact des papas. Puis ça, c'est statistiquement, voilà les problèmes dans les foyers, dans les maisons, dans les vies des gens qui n'ont pas de papa. Il y a deux fois, dans une famille où il n'y a pas de papa, il y a deux fois plus de décrochage scolaire. 8 fois plus probable d'être incarcéré, d'être en prison. 10 fois plus probable d'abuser des substances chimiques. Et 20 fois plus probable d'avoir des problèmes de comportement. Fait que si on regarde ça, on dit, mais là, on est foutu. On n'a pas de papa, on est foutu. Mais ça, c'est des statistiques. Ce ne sont pas des prophéties. Et c'est ça que je veux souligner. Parce qu'on peut... Moi, en fait, je travaille avec les jeunes, je travaille avec les familles, puis on voit l'impact des papas dans la vie des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Puis j'espère que je suis capable de vous parler pendant une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes ce matin, sans pleurer trop. Mais si on regarde des statistiques, c'est assez pénible, puis c'est assez décourageant. Mais comme je dis, là, c'est pas des prophéties, puis c'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, comme Église, comme famille, comme enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec ces statistiques-là? Puis ça, c'est vraiment super important. On va voir comment qu'on peut investir et tourner, tu sais, ces données-là ne se réalisent pas dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos villes, ici. Là. Et ce qui est fascinant, même avec les statistiques et le rôle des papas, ce n'est pas juste des chrétiens qui disent que les papas sont importants. Il y a plusieurs, on fait des recherches de la Psychology Today, il y a plusieurs études séculières chrétiennes qui soulignent l'importance des papas. Puis justement, je ne sais pas si vous l'avez vu, juste dernièrement même, il y a des annonces, il y a une annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour des Cheerios. T'sais, en fait, on souligne, puis en fait, je pense que c'est la première fois que je vois une annonce qui est très positif envers des papas dernièrement. C'est assez fascinant, ça décrit vraiment un papa qu'on souhaite. Puis on ne se moque pas des papas dans l'annonce, fait que c'est quand même en fait assez fascinant. Je ne l'ai pas projeté là, ici, mais en tout cas, si vous voulez regarder Cheerios, des Honey Nut Cheerios, il y a une annonce qui souligne le rôle des papas, puis c'est assez fascinant. On voit l'importance, puis ça souligne ça, là, mais c'est bien sûr, ils veulent vendre plus de Cheerios, mais c'est quand même, ils soulignent quand même d'un rôle très positif là, le rôle des papas dans nos familles. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que ça ne se réalise pas. Moi, je veux commencer avec, c'est quoi le rôle des papas dans nos foyers? Comment Dieu a dessiné ça? Les papas, ils font quoi, là? C'est quoi leur rôle? Fait qu'on va commencer, j'ai deux citations de l'Ancien Testament. Le premier, c'est psaume 78, puis c'est le verset 1 à 8. Puis, je ne sais pas si je pourrais demander à quelqu'un qui veut lire ça, se lever et lire ça à très haute voix. Comme je peux demander à quelqu'un, ou je peux dire, si vous êtes bénévole, vous portez... Bénévole, juste pour dire ça à très haute voix. Vas-y. Fait que si vous voyez dans cette psaume, j'ai mis en gras puis j'ai souligné quelques mots clés ici. Puis on va revenir dans deux secondes. Puis je vais juste lire en Ésaïe aussi le rôle des papas. On dit Ésaïe qui dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Et défendez la veuve. Donc, ça, je dirais, en gros, c'est ce que Dieu nous exhorte, nous commande, nous exige. C'est ça le rôle des papas. Puis c'est quoi? Donc, qu'on recherche la justice, qu'on enseigne à nos enfants, qu'on protège, qu'on défend. Puis, c'est si on regarde ça comme papa, c'est toute une commande, ça. Enseigner à nos enfants qui prennent le bon chemin. Parce qu'on voit on voit clairement dans le psaume ce qui arrive, là, comme si un papa ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? On deviendra indocile, rebelle, le cœur n'est pas ferme, l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Ça, c'est les conséquences d'un papa qui enseigne pas, un papa qui cherche pas à faire la justice, à protéger l'opprimé et à faire droit à l'orphelin et défendre la veuve. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Pas juste papa dans ma famille, mais papa comme membre de notre église, de notre famille. Et je vois que c'est vraiment très important. Mais le défi là-dedans, c'est comment est-ce que suis-je capable de faire ça? Comment est-ce que les papas, comment est-ce qu'on est capable? Moi, c'est toute une liste que Dieu a dressée pour nous. Là. Mais ce qui est fun avec ça, Dieu, là, il est bon. Il nous dit comment qu'il voit. Nous, on prend état de la situation, mais là, il donne des solutions pour atteindre ça. Fait que il y a au moins ça. Là. Fait qu'il ne nous laisse pas seul dans notre coin et puis de dire, hey, ça, c'est toute une tâche, on ne sera pas capable. Fait qu'en psaume 68, on dit, le père des orphelins, c'est qui? C'est le défenseur des veuves, c'est qui? C'est Dieu, dans sa demeure sainte. Et Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Fait que finalement, c'est comme ça qu'on peut pallier, on peut répondre à toutes les statistiques de notre société parce que Dieu nous rend capable, Dieu est capable, Dieu est le défendeur des veuves et des orphelins et il délivre les captifs et les rend heureux. Fait que c'est la famille de Dieu, c'est qui ça? C'est nous. Fait que c'est ça qui est bon parce que c'est certain, moi tout seul, de loin d'être capable, mais c'est ça qui est bon. En famille, puis même juste, on voit toutes les différentes annonces. Moi, je trouve que c'est toujours, en fait, personnellement, c'est le temps des annonces. Moi, je trouve comme église, je trouve que c'est un temps vraiment le fun parce qu'on voit toutes sortes de choses qui se passent en famille. Là. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent. T'as Jean Bomolo qui parle de la visite des maisons ici. On parle de les mamans ou les femmes qui vont se ressourcer ensemble. On parle de toutes sortes de choses qui se passent. On fait les fêtes. C'est vraiment ça qui c'est ça une famille, là. Il y a toutes sortes de choses de qui se passent, puis Dieu, il travaille dans chacun de ces aspects. Je trouve que c'est vraiment un temps bénissant là, de voir le temps d'annonce, puis c'est ça la famille. Là. C'est pour ça qu'on vient ensemble, là, de savoir ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est exhorter, prier, encourager mutuellement puis les uns les autres. Fait que ça, c'est vraiment la famille que Dieu nous donne. Donc, si Dieu est le papa... Il demande nous d'être des papas, mais comment, c'est quoi le modèle, c'est quoi le véritable papa? Puis, ce qui est vraiment le fun aussi, là, comme j'ai dit, là, Dieu présente un peu la solution. Tu sais, en Jésus-Christ, quand il est venu sur Terre, son ministère, c'était quoi? C'était de partager son papa. Puis c'est ça que je pense que c'est vraiment critique. En fait, c'était pour moi, dans mon cheminement, puis j'encourage tout le monde de voir. C'est pas ce que moi je pense de Jésus, c'est pas ce que moi je pense de Dieu, c'est qu'est-ce que Jésus a pensé de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a parlé de son papa? Puis comment est-ce que Jésus nous a parlé de son père, qui est vraiment important? Fait que pour faire ça, il faut aller chercher dans la parole, dans les récits et les mots et les choses que Jésus a partagées. Fait que c'est ça que j'aimerais bien regarder, puis c'est peut-être quelque chose où vous êtes très familier, mais je l'espère, parce que c'est quand même quelque chose de base, mais je trouve que c'est vraiment important qu'on s'arrête et on se dit, mais qui est le papa dont Jésus nous dévoile? Qui est le papa dont Jésus nous présente? Puis on le voit quand la première fois que les disciples sont ensemble avec Jésus, puis probablement qu'ils voyaient qu'il y avait quand même une vie de prière. Jésus avait certainement une vie de prière intense et personnelle, puis les disciples pouvaient voir ça en Jésus. Puis je trouve que c'est tellement beau. Qu'est-ce que les disciples ils ont dit? Elle dit, mais Jésus, là, es-tu capable de montrer comment prier? Puis c'est ça que, puis j'irais, ça venait de profond, parce que certainement ils ont vu que Jésus avait quelque chose de différent. Il n'enseignait pas, il présentait pas les mots et les lois, il présentait son papa dans sa prière et dans son comportement et ses interactions avec les disciples. Fait que je trouve que c'est vraiment important qu'on s'arrête, on se dit, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, montre-nous comment tu pries. Puis Jésus a dit, bah, bien sûr, je vais vous montrer comment prier. Puis la première fois, et c'est dans la parole, l'évangile de Matthieu, Jésus nous montre, la première prière que Jésus nous a montrée, c'est quoi? C'est là, notre Père. Fait que j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble, puis des fois, on va la citer comme, oui, c'est notre Père, mais j'aimerais, on va s'arrêter sur chacune des lignes, puis voir qu'est-ce que ça dévoile, qu'est-ce que ça démontre de notre Papa, le Papa que Jésus nous montre. Donc, si vous voulez suivre, je l'ai tout au complet à la fin de la présentation, mais on va le décortiquer, on va le découper comme phrase par phrase, bout par bout. Donc, ça se trouve à Matthieu 6, les versets 9 à 13. Donc, notre Père qui est aux cieux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Puis des fois, nous, dans la culture, peut-être qu'on pense que d'être au ciel, c'est comme quelque chose de lointain, mais dans la cosmologie, dans l'état, là, t'sais, les cieux, c'était quelque chose de proche, c'est presque l'air qu'on respirait. Donc, quand on dit quand Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux », ça veut dire qu'il est là, on le respire, il est présent, il est autour de nous. Puis même quand Jésus a été baptisé, ils ont dit que les ciels ouverts, puis le colombe est descendu, donc il était proche. C'est pas un Dieu, c'est pas aux cieux qu'il est loin, il est proche, il est près de nous, il est présent dans l'environnement qu'on respire. Donc, c'est un Dieu qui est proche, qui est présent. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ça veut dire quoi, se sanctifier? D'être pur, d'être bon, d'être saint. Et aucun mal n'est présent. Il n'y a pas de mal présent dans Dieu. Même, il déteste le mal, là. C'est juste du bon. Il est pur, il est saint. Donc, que ton nom soit sanctifié. Donc, ça dit une autre caractéristique, un autre aspect de notre Papa. Il est pur, il est saint, il est vraiment bon. Parce que des fois, nous, on peut penser que, moi, mon papa, il est correct, là. Pur, saint. Puis si quelqu'un dit, moi, je demanderais à mes enfants, pur, saint, bon. Ouais, j'ai des petits bouts, là, mais mettons, mettons, je ne suis pas sûr que vous croirez, mais même, ils ne diront probablement pas que je suis pur et saint, là. Mais avec Jésus, c'est une autre affaire, là. Troisième chose, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour avoir un règne, pour tu sais, que décrire là, ce qui va se passer comme volonté, ça souligne quoi? Que c'est un roi, que c'est un puissant, c'est lui qui contrôle, que c'est lui qui dit quoi faire. Fait qu'on voit déjà trois aspects de notre Dieu, notre Papa. Donc, puissant, saint, proche, aucun mal, mais si on s'arrête là, il y avait probablement beaucoup de dieux qui avaient ces caractéristiques purs, saints, bons. Mais ce que j'aime bien voir, les prochaines étapes, mais c'est quoi le fait? Quand Jésus parlait de son Dieu, de son Papa, on peut penser, on peut imaginer un Dieu qui est grandiose, un roi, Mais regardez bien les prochaines parties de le papa que Jésus nous dévoile. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ça veut dire quoi ça? Il pourvoit chaque jour à tous nos besoins. Donc ce que moi je trouve le fun, c'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu qui règne sur un trône puissant, il se préoccupe de nous, il pourvoit à nos besoins, puis pas juste de temps à autre, mais tous les jours. Fait que ça c'est quelque chose de vraiment, ça c'est notre papa, il se préoccupe de nous chaque jour, dans tous nos besoins. Prochain point, ça vous le connaissez certainement, hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce que c'est important ça pour Dieu? S'il pardonne, il restaure la vie. Là, Dieu, son travail, c'est quoi? C'est la restauration de nos âmes. Puis c'est ça, c'est le papa. Ça, c'est un papa qui aime profondément. Un papa qui aime jusqu'à nos tripes. Tu sais, à l'intérieur, au fond de nous. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il veut restaurer notre âme. Il veut restaurer la vie. Il veut restaurer nos relations les uns avec les autres. Fait que c'est juste, pas juste avec lui, pardonne-nous nos offenses, mais il nous donne aussi là, avec les uns avec les autres. Fait que c'est quand même un papa extraordinaire à date, là. Mais il y a encore une autre partie. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un Dieu qui protège. Et il nous protège en toutes circonstances. Même des fois qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il est là. Il nous protège, il est là avec nous. En toutes circonstances, il nous protège. Fait que c'est ça qu'il ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il se préoccupe de notre protection. Il se préoccupe de nous, notre santé physique, mentale, spirituelle, notre relation avec lui. Et on termine avec... Car c'est à toi qui appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Fait que finalement, il est responsable pour tout. Donc, si on regarde notre papa, le papa que Jésus nous souligne, il monte aux disciples, mais il nous parle aussi. C'est un Dieu qui est présent, qui est proche, un papa qui est saint, un papa qui est puissant, un papa qui se soucie de nous, un papa qui nous pardonne et un papa qui nous protège. Fait que c'est tout c'est ça. Puis ça, c'est notre papa. Fait que, puis des fois, comme j'ai dit au début de la présentation, des fois, on voit les papas, on voit papa, puis on ne voit pas nécessairement ça. La première chose, on voit que toutes les statistiques, puis toutes les données et tous les problèmes, puis même, regarde, chacun de nous ici, on a un papa. Biologiquement, c'est à moins que vous êtes Adam, mais c'est biologiquement impossible que vous soyez ici sans papa. Mais notre cheminement avec nos papas, ça varie de 0 à 100, très bien jusqu'à... pourri et dévasteur. Là. Ça, je le reconnais. Je travaille avec les familles, je travaille avec les jeunes, puis je vois. Là, on a chacun une histoire avec nos papas. Et des fois, en tout cas, je ne dirais pas même des fois, souvent, trop souvent, on voit Dieu à travers notre papa. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve tellement, tellement, tellement problématique. On voit Dieu à travers notre papa. Mais notre papa, là, ça c'est le modèle, là. En tout cas, j'en ai pas rencontré encore qui est capable de faire ça. Là. Ce serait... Mais ce qui est bien, il y en a un. Il y en a un papa qui rencontre ses exigences. Puis quand on passe du temps à voir, mais moi, mon papa a été comme ça, puis il m'a blessé ça, donc j'ai la discuté avec ma relation avec Dieu. Mais c'est ça qu'il faut dire, OK, mais arrête, j'arrête. Puis je dis, mais Jésus, c'est qui le papa que toi, tu nous as parlé? C'est qui le papa au ciel? Puis voilà, ça, c'est les points qui vraiment soulignent qui est notre papa. Puis c'est ça qu'il faut s'assurer qu'on regarde ça en premier, le papa que Jésus nous dévoile, le papa que Jésus nous présente en premier lieu. Puis là, on voit notre papa, puis on est capable de quoi? Probablement de pardonner, puis de soucier de lui, puis de voir que lui aussi, notre papa, aussi a un chemin avec son papa, qui est le papa au ciel. Fait que c'est quand même le modèle, c'est notre cette prière que Jésus nous partage, c'est vraiment ça notre papa. Puis c'est le modèle que nous avons pour être papa pour les autres. Fait que pour contrer les statistiques que je vous ai présentées au début, c'est ça qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre ce modèle de papa que Jésus nous présente ici. Notre Père qui... En fait, c'est quelque chose que peut-être... Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Ce serait fun. Puis même, si vous voulez, à chaque point au point virgule, on va s'arrêter pour un quart de seconde. Puis là, ça, comme vous imbibez un peu là, chaque phrase ou partie de phrase. Fait que chaque exclamation au point virgule, prenons 2 secondes avant de poursuivre. Mais disons-le, lisons-le à haute voix, tout le monde ensemble. Puis laissez Dieu vous envahir avec qui il est comme papa. Fait que, allons-y.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles, le règne, la grâce et la gloire.
Amen. Donc, le modèle de Dieu est ici, l'état de notre société est ici, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que moi je fais comme papa? D'être présent, d'être proche. Je peux dire que moi, mes enfants, ils savent que s'il y a un game de soccer, s'il y a un game de basket, probablement je vais être là. Mais ça, c'est un choix que moi, j'ai fait avec mes enfants, parce que moi, mes parents, moi, mon papa, quand moi, je faisais des sports, ils n'étaient pas là. Fait que moi, je disais, OK, voilà, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Mon papa ne l'a pas comblé. Moi, je vais le combler dans mes enfants. Mais je ne sais pas si eux autres, ils vont dire, ben là, c'est un peu, tu sais, tu aurais pu, papa, tu sais, peut-être être un petit peu moins présent, tu sais, il crie un petit peu moins, OK, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils vont peut-être prendre une autre décision plus tard, dire, ben, on va venir à toutes les deux games, là. Fait que, en tout cas, mais c'est quand même, je ne veux pas le souligner pour avoir l'attention sur moi, mais juste de dire, comme papa, que nous, comme papa, on doit choisir, on doit investir, on doit intentionnellement réfléchir, de dire, voilà le modèle, qu'est-ce que moi je fais pour faire ça? Comment est-ce que je peux être présent avec mes enfants, puis être présent même, des fois, on peut être dans la même maison, mais de ne pas être présent. Tu sais, quand on arrive à la maison, puis on a le boulot, la relation, la chicane avec nous, puis on la porte dans la maison, mais on n'est pas présent. On est là, mais on n'est pas présent. Fait que ça, c'est quelque chose, je vous encourage, et je m'inclus là-dedans aussi. Des fois, qu'est-ce que je laisse à la porte quand je rentre, puis je veux être présent avec mes enfants. Et aussi, tout ce que je vous partage maintenant, c'est pas juste mes enfants. Comme j'ai dit, là, ça, c'est la famille, là. Fait que, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en famille, fait qu'il faut que nous préoccupons des enfants les uns les autres, parce que justement, il y en a des papas qui sont là, il y en a des papas qui ne sont pas là, pour différentes bonnes et mauvaises raisons. Mais ça, c'est notre famille, donc on a une responsabilité aussi d'être un papa présent pour d'autres. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous comme Élise, puis c'est quelque chose que je trouve que, en tout cas, c'est tellement, tellement important pour chacun de nous. Comment est-ce qu'on va être papa? Pour d'autres aussi, d'être proche et d'être présent pour d'autres. D'être saint et d'être pur, là, ça c'est, encore là, c'est le modèle, mais ça c'est toutes les décisions que moi je prends comme papa. Est-ce que je vais payer les taxes quand l'autre il arrive à la maison et dit, tu sais, on fait ça cash puis on ne se parle pas. Regarde, c'est à nous de dire, mais comment est-ce que je vais vivre ma vie, là? Comment est-ce que je vais vivre, quelles sont les décisions que je vais prendre pour être pur, pour être saint, pour être selon l'exemple que Dieu nous donne, là. Mais c'est des petites décisions parfois banales, qui font la différence d'avoir une vie pure, d'une vie sainte. Puissant, donc il faut être là. Moi, je devrais pas, mais je vais faire pareil. Mais comme Mathieu était pas mal plus petit que maintenant, il grimpait là, sur les trucs dans les cours le playground, là, comment tu appelles ça? Les jeux dans le parc. Il aimait ça grimper. Puis là, il aimait se lancer, puis il fallait que je l'attrape. Mais des fois, là, il avait tellement la confiance que j'allais l'attraper, là. Il grimpait, puis il sautait, mais puis moi, je ne regardais même pas, là. Fait que là, j'ai dit, OK, garde. Là, je l'ai attrapé une couple de fois, wow, juste comme ça. Mais je dis, garde. À chaque fois, avant de sauter, tu dis toujours 1, 2, 3. Fait que là, ça s'est amélioré un peu, parce que si j'entendais 1, 2, 3, il fallait que je me prépare parce qu'il allait se sauter. Mais donc, il fallait que je sois fort parce qu'il avait la confiance en moi. Tu sais, qu'il allait sauter, j'allais l'attraper. En fait, c'est ça que nos enfants s'attendent de nous, de dire, oui, on va être là, oui, on va prendre les décisions, on va poursuivre Dieu avec passion, avec zèle, sais, parce que c'est de lui, ça vient toute la puissance, donc d'être fort là, comme pour nos enfants, pour notre Église. Et ce souci, évidemment, tu sais, on a un Dieu qui se soucie de nous, il faut qu'on se soucie les uns des autres, des jeunes. En fait, c'est ça qui est fun là, pendant que je parle, de juste d'entendre les jeunes dehors qui crient, puis il y a des gens qui se soucient des jeunes, tu sais, ils viennent dans la famille du Seigneur, puis c'est le fun, là, on se soucie d'eux autres, ils sentent, ah, ça c'est une belle place, c'est fun d'être ensemble en famille, là. C'est vraiment, on se soucie les uns des autres. Pardonne, ça je dirais, si vous avez déjà pratiqué le pardon, là, c'est la chose probablement la plus puissante que notre Dieu nous donne. Il n'y a rien qui, puis Michel, probablement, il pourrait peut-être parler de, j'irais, une partie de sa vie, sur le pardon, s'il ne l'a pas déjà fait, mais ce qui est fun, il y a encore, même s'il est vieux, là, jusqu'à, il y a encore, c'est vrai qu'il s'est amélioré, il y en a beaucoup encore à donner, là, juste pour que... Mais le pardon, c'est tellement puissant, hein? Puis c'est le pardon, on dit que c'est de pardonner l'autre, mais c'est pour nous, puis c'est ça que c'est merveilleux, là, c'est qu'on pardonne, en fait, c'est un travail qui se fait en nous, là. Fait que on doit être des papas, et des mamans, je parle papa, mais en fait, on peut inclure maman dans le modèle aussi, parce que Dieu étant créé, l'homme et la femme est créé dans l'image de Dieu. Là, fait, mais je vais laisser ça pour la fête des mamans, un autre moment là, de parler les mamans. Mais de pardonner les uns les autres, de pardonner nos enfants. Puis je dirais, j'ai déjà entendu ça là, quand les enfants étaient plus petits, ils disaient, ah, je ne demanderai jamais pardon à mon enfant. Je dis, OK, mais ça, c'est intéressant d'avoir de penser ça. Moi, à 20 ans, je pouvais faire une erreur à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. Si on est responsable, on est responsable, puis on doit demander pardon. On demande pardon à un enfant de 5 ans dont on agit incorrectement. On demande pardon à le policier qu'on a maltraité, le collègue de travail qu'on a fait quelque chose de pas correct. On doit se demander pardon, pardonner les autres et demander pardon aussi. Et de protéger. Donc, le rôle des papas, on voit souvent, tu sais, il faut être fort, il faut protéger. Dieu, c'est un Dieu protecteur qui protège. Nous, comme papa aussi, on doit protéger l'Église, on doit protéger la famille, on doit protéger les uns les autres. Fait que, et à l'intérieur de ça aussi, là, je pense que comme le rôle de mentorat dans la vie de beaucoup de jeunes, comme je disais, là, les statistiques qu'on a vues au début, là, on peut être découragé, puis on peut regarder ça, on dit, mais là, on est foutu, là. Mais c'est pas vrai, là. Parce que Dieu nous donne un modèle, nous donne même un commandement de s'occuper des veuves et des orphelins. Ça, c'est notre travail là, comme Église. Là, on doit faire ça. Fait comment on investit? Puis on investit chacun de nous dans différentes façons. Mais c'est tellement beau de voir ça aussi, là, comment on peut investir selon ce modèle-là pour les papas, pour notre Église. Puis quelle joie d'être un papa dans notre Église. Je veux juste terminer, en fait, avec ce que Paul il écrit dans l'Épître aux Romains, c'est comment est-ce que Dieu nous voit là, t'sais, puis c'est tellement, puis là, après ça je vais demander à Mathieu de venir parler un peu de ça, le papa qu'il a rencontré. En fait, je crois que c'est le même papa en Hawaï qui est en Chine aussi là, qui est ici. Hein, je pense que il va partager un peu là. Mais et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle belle image! Abba, Père. Ça, c'est notre papa. Et quand on dit Abba, Père, j'espère que vous voyez quel papa que nous avons, là. Quel papa extraordinaire que nous avons. Puis ça, c'est l'esprit que Dieu nous donne. Ça, c'est le papa qu'il est pour nous. Puis ça, c'est juste extraordinaire. Il y a rien qui peut, il n'y a pas de mot qui peut décrire ça. Et moi, comme papa, j'aimerais bien vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissez pas, mais Mathieu était parti pendant 6 mois en mission avec Jeunesse en mission, puis il est revenu lundi passé. Puis maman et papa ont été très contents de le revoir dans la famille. Et on va te... Je pense qu'on va... Ouais, c'est ça. Je te laisse juste comme ça. Fait que je te laisse mon fiston.
Alors, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mathieu, le fils David là-bas. Et lundi passé, je suis revenu d'un voyage missionnaire avec une organisation qui s'appelle Jeunesse en Mission, YWAM en anglais, Youth with a Mission. Puis je suis parti depuis le 1er janvier 2016. Alors pour moi, c'est la première fois au Canada en 2016. Alors il fait quand même froid ici. J'ai attrapé un rhume parce qu'il fait un peu plus froid ici qu'à Hawaï et en Chine. Mais ouais, je voulais juste vraiment vous partager un peu vite ce que j'ai vécu pendant les derniers 6 mois. Je pourrais très facilement vous partager pendant quelques heures parce que j'ai déjà fait ça durant cette semaine avec quelques amis. Mais je vais essayer de prendre un peu moins de temps. Pour ceux qui ne savent pas, l'organisation avec qui j'étais, Jeunesse en Mission, ce que moi j'ai fait, ça s'appelle un DTS, Discipleship Training School. Alors, ça avait l'air, pour les premiers 3 mois que j'étais parti, j'étais en Hawaï, dans ce qu'on appelle Lecture Phase. Alors, ce qu'on faisait, c'est on apprenait. Puis, ce temps-là, c'était vraiment un temps où le Seigneur a utilisé pour vraiment prendre la fondation que j'avais construit pour moi-même, puis juste détruire ça, puis reconstruire une nouvelle fondation, mais vraiment une fondation solide en Christ. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté à vraiment vous témoigner en français, parce que ça fait 6 mois que je parle en anglais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai encore la difficulté, même en ce moment, à vraiment comprendre. Juste, je savais que j'allais avoir la difficulté, mais on a vraiment un Père qui est éternel, mais il est avec nous aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment expériencé d'une façon très réelle. Pendant 6 mois, alors c'était vraiment un 6 mois quand même intense. Ce que ça avait l'air, le DTS, moi j'étais un des 24 autres étudiants d'à peu près mon âge, des âges de 18 à 21 à peu près, et on venait des quatre coins du monde. J'ai des amis maintenant en Allemagne, en Suisse, à la Norvège, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, partout. Mais c'était des étudiants qui sont venus de partout. On s'est rendu à Hawaï parce qu'on sentait que le Seigneur nous appelait là-bas. Ça aidait que c'était à Hawaï aussi. Il fait super beau là-bas tout le temps. Mais non, c'est ça. Les premiers 3 mois, c'était vraiment à chaque semaine, on avait quelqu'un de nouveau qui venait nous parler d'un nouveau sujet. Comme par exemple, le premier sujet, ce dont on avait eu, c'était avec une des premières personnes qui faisait partie de l'organisation Jeunesse en Mission. Elle s'appelle Donna Jordan, puis c'est une femme vraiment qui est meilleure amie avec Jésus, puis c'est vraiment quelque chose d'autre à voir. Puis je me rappelle, le sujet c'était « Hearing the voice of God », alors « Entendre la voix de Dieu ». Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais vraiment pas ce que je venais juste de commencer, parce que c'est à ce moment-là que c'est juste devenu encore plus réel pour moi. Juste vraiment passer du temps avec des gens qui venaient de toutes sortes de backgrounds, puis toutes sortes d'histoires avec leurs parents, puis des histoires familiales, puis vraiment juste... c'était juste quelque chose de voir le Seigneur amener tellement de jeunes vraiment brisés de chaque coin du monde, juste les amener à Hawaï pour juste les reconstruire, puis juste les ramener à lui. Puis alors ça, c'est juste un tout petit clin d'œil à ce que j'ai fait en Hawaï pendant les premiers 3 mois. Les prochains 3 mois, moi j'ai passé avec 9 autres de mes amis en Chine. Alors on était en Chine en tant que missionnaire. Je sais que la majorité du monde à la maison ne savait pas qu'on était en Chine, parce qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on allait en Chine, parce que on était là et c'était illégal pour nous parce qu'on était là en tant que missionnaire. Puis missionnaire, être missionnaire en Chine, c'est illégal pour tout le monde. Alors, des 24 étudiants, 8 ont choisi d'aller en Chine, 8 ont choisi d'aller à la Nouvelle-Zélande, puis 8 autres sont allés en Indonésie. Puis notre temps en Chine, c'était vraiment quelque chose. Le Seigneur nous a enseigné plein de choses durant les premiers 3 mois où c'était juste vraiment un temps d'apprentissage. Mais les 3 mois d'après, les 3 mois en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, c'était vraiment juste un temps où on a pris tout ce qu'on a appris, puis on l'a donné à d'autres personnes. Puis l'organisation YWAM Maui à Hawaï, ils envoient depuis quelques années des groupes de missionnaires en Chine et personne a vu quelqu'un venir à Christ durant leur temps en Chine. C'est vraiment juste des temps de semer de la séance, la semence. Puis c'était vraiment quelque chose d'autre parce que nous, on a vu le Seigneur vraiment se faire connaître à travers la Chine. Puis on a... Je sais même pas où commencer parce que c'était vraiment juste... J'ai des histoires de chaque journée. On avait passé 74 jours en Chine. Puis à chaque jour, il y avait quelque chose d'autre à vous raconter. Mais je veux juste vraiment vous partager. Les premiers 5 semaines qu'on avait passées en Chine, c'était à la ville de Guangzhou. 18 millions dans une ville à 3 heures de Hong Kong, au sud de la Chine. Puis ce que nous, on faisait de l'évangélisation auprès des étudiants universitaires à Guangzhou. Puis ce qu'on faisait, on leur invitait à ce qu'on appelait des English Corner. Puis ce qu'on faisait avec eux, c'est on pratiquait leur anglais avec eux parce que eux, ils aimaient ça qu'on était pas de la Chine, ça se voyait parce qu'on était plus grand que tout le monde, on était blanc. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait jamais vu quelqu'un hors de la Chine, qui venait hors de la Chine. Alors ce qu'on faisait, nous, on les invitait pour pratiquer leur anglais, mais ce qu'on faisait, on pratiquait leur anglais avec eux, mais on leur donnait l'évangile en même temps. Et dans la première semaine, personnellement, moi j'ai vu 8 personnes venir à Christ dans la première semaine. Puis je me rappelle, même la première journée qu'on était là, il y avait une fête. On était invités à une fête. Puis moi puis 2 amis, mon amie Rebecca, elle venait du Texas. Puis mon ami Luc, il venait du Michigan. Puis on était les 3 à une fête Easter, c'est quoi? De Pâques, ouais, parce qu'on était là durant la Pâques. Et c'était une fête de Pâques. Puis il y avait beaucoup de non-chrétiens. C'était avec un groupe chrétien, un groupe, une église maison. Parce que, je vais expliquer ça plus tard. Mais c'était avec un groupe maison. Puis 5 personnes sont venues à Christ la première journée qu'on était là, puis 4 personnes ont été baptisées dans le temps de à peu près 2 heures qu'on était là. Puis c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à comprendre comment le Seigneur voulait bouger à travers nous et vraiment juste revenir dans cette nation qui est vraiment juste commence à être ouverte encore et juste. On a plein d'histoires comme ça, mais en total, à peu près 32 personnes sont venues au Seigneur pendant qu'on était là. Puis c'était quelque chose d'autre. Parce que on est revenu, puis on avait 2 leaders, un gars puis une fille. Puis pour eux, c'était quelque chose d'autre parce qu'eux, ils avaient vu des équipes passer par la Chine, puis pas vraiment voir des résultats instantanés. Mais pour eux, ils comprenaient que c'était pas normal, parce que nous, on n'avait jamais vécu quelque chose d'autre. Alors nous, pour nous, c'était normal qu'on revenait, puis ouais, quelqu'un d'autre a accepté le Seigneur, you know, notre ami Alex, notre ami, toutes les affaires de même, on avait plein d'amis qui sont venus au Seigneur, puis même en ce temps-là, on est encore en contact, puis on entend encore plus d'histoires des amis que nous, on a commencé à connaître, qui sont venus au Seigneur. Alors c'était vraiment quelque chose de juste vraiment voir la bonté de Dieu, vraiment voir ce que Dieu a comme plan pour la Chine. Parce que je pense vraiment que la Chine va être un emplacement que le Seigneur va utiliser pour envoyer des missionnaires à travers l'Asie. Je me rappelle, pendant qu'on était en Hawaï, le Seigneur m'a montré une photo. Il m'a donné une image de la Chine. Puis on avait, il y avait 5 flèches qui sortaient de la Chine, puis à travers l'Asie. Puis à ce temps-là, je parlais à mon leader, puis on n'était pas sûr si on allait aller à 4 locations en Chine ou à 5. Mais moi, j'avais la photo que le Seigneur m'avait donnée, c'était 5 flèches. Puis j'avais demandé à mon leader si par hasard on allait à 5 locations, 5 emplacements. Puis il m'a dit qu'il n'était pas sûr. Mais la journée d'après, il m'a dit que c'était la confirmation. Alors, ouais, ça c'était juste vite fait. Venez me voir, j'aimerais tellement vous raconter encore plus. J'aurais probablement la difficulté, mais ça me donnerait plaisir. Et je voulais juste aussi vous remercier pour vos prières, puis vraiment juste votre support dans la prière, parce que le Seigneur a utilisé ce temps pour vraiment me montrer ce qu'il veut faire dans ma vie. Je me prépare à vraiment une vie dans la mission. Je suis pas sûr pour combien de temps je vais être ici encore, parce que je me prépare à partir encore. Le Seigneur m'appelle dans différentes places, puis c'est vraiment excitant. Alors, merci.